Est-ce que Yann, tu m'entends quand je parle dans le micro ?
Ouais, je t'entends, je t'entends approximativement, quoi.
Ok. Bon, alors, on va lancer. Alors, merci à toutes et à tous d'être présentes avec nous aujourd'hui pour cette deuxième journée de ce colloque, voilà, qui s'appelle Cliquer l'archive, sur la question de l'interaction entre l'archivage numérique et les pratiques artistiques. On commence avec une table ronde. Alors, je vais rapidement vous présenter nos invités. On a avec nous Marion Zilliot, qui est critique et commissaire indépendante et qui est enseignante à Paris 8, secrétaire générale de l'AICA France et membre de l'Association française des commissaires d'exposition, qui s'appelle CEA. Elle est aussi, j'ai dit prof à Paris 8 et aux Beaux-Arts de Rennes, voilà, et aux Beaux-Arts de Rennes. Et aussi auteure de Face World, le visage au 21e siècle sur les réseaux sociaux, et on en parlera peut-être un peu plus tard. On a avec nous, à sa droite, Élise Migraine, qui est réalisatrice XR, autrice franco-suisse, et donc qui a réalisé l'expérience VR Roger Talon, Archive en mouvement, et qui, aussi un projet VR Insomnie sur la technologie et le souvenir. On a aussi avec nous, sur scène, deux représentantes de ATFU, et une troisième qui est aussi là en backup, qui nous parlera plus tard. Donc je les présente rapidement aussi, c'est Cyrine Amar, qui est ici. Ensuite, Clémentine Dupont-Tissot, et là-bas, Clara Citron. ATFU est une appli, un réseau social de troc d'œuvres d'art, qui a commencé en 2022, et peut-être un collectif, un pan de vos pratiques individuelles, on en parlera. Et en visio, on a avec nous Jan van der Kruysen, qui est artiste et compositeur, notamment qui gère un site qui s'appelle Official Database et qui a plusieurs projets qui réutilisent les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook. Ça s'appelle les projets secrets. Donc c'est quelque chose qui... Enfin voilà, on en discutera un peu. Je vous laisse un petit peu la parole. Est-ce que vous avez des choses à dire en introduction comme ça, des idées sur des choses que vous aimeriez dire? Ah oui, d'accord. Bon, ben, sinon, je fais des questions. Ouais, ok. Ben, alors, je vais m'adresser à Yann, qui est le plus distant, pour qu'il soit le plus présent avec nous possible. Est-ce que, Yann, tu peux nous parler un petit peu de, je sais pas, les projets secrets, par exemple ?
Est-ce que je peux parler... Alors, je t'entends vraiment d'une façon, genre, compressée MP3 hardcore, mais est-ce que tu peux nous parler de...
Alors... je parle un peu dans le micro, ouais, et merci. Proche de l'ordi.
Là, c'est mieux, merci.
Donc, ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'Official Database et des projets secrets ?
Ok. alors, Official Database, c'était une sorte de structure un peu fantaisiste qui, à la base, comment dire ça ? Moi, j'ai des sites web qui sont un peu symétriques. J'ai une version sur OVC, une version en ligne qui ne bouge pas. Et Official Database, c'était une sorte de structure qu'on avait fait avec un ami pour stocker des choses sur le web qui étaient en constante évolution. À une époque, on avait mis en place des sortes de petits robots qui allaient sur le web tous les jours, qui récupéraient un peu au hasard des phrases, qui cliquaient sur des liens, qui récupéraient des images, des emails, et puis qui étaient un peu autonomes, qui allait poster des trucs sur Twitter, qui envoyait des mails à des gens avec des phrases récupérées. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est quelque chose qui a perduré dans le temps dont on s'est servi pour faire des grosses bases de données de un petit peu plein de choses et souvent crowdsourcées. C'est-à-dire qu'on a mis en place des petits jeux qui demandent pour jouer de répondre à des questions d'uploader des fichiers et on a une base de fichiers de fichiers, de phrases, de données très générales qui s'accumulent avec le temps. Il y a aussi des spam bots qui y participent. On a des pièges à spam bots qui cumulent des données différentes. Et ta deuxième question, c'était ah oui, les projets secrets, c'est pareil, c'est un peu du crowdsourcing, on va dire. Ça se passe par à la base c'était sur un groupe Facebook, mais c'est moi je mets en forme tout ça. Une partie de ce qu'est les projets secrets, c'est des listes de choses. Quand quelqu'un veut constituer une liste de choses, il dit je veux, je sais pas, par exemple quelqu'un disait je cherche toutes les chansons dans lesquelles il y a le mot love dans le titre. Donc évidemment ça englobe énormément de choses, des fois c'est très subjectif, Et tout le monde propose des choses à chaque fois. Donc il y a des listes qui sont vraiment très spécifiques, d'autres plus générales. Et avec ça, et aussi avec moi, des recherches que je fais à côté, je constitue beaucoup de listes que je mets de côté, beaucoup de listes d'images et une sorte de base de données un peu subjective de choses en tout genre. Voilà, je sais pas si
Ok, et
je
ben
m'arrête là sur la réponse.
ouais, c'est bien. Et moi, ce que je souligne là, c'est les projets secrets, c'est une façon de réutiliser les réseaux sociaux dans l'idée que les réseaux sociaux ne sont pas le but final, quoi.
Non, c'est ça, et c'est même d'ailleurs pas un très bon outil pour ça. Enfin, c'est un petit peu comme toujours avec les réseaux sociaux. Genre, l'intérêt du réseau social, c'est qu'il y a des gens dessus, et on a beau avoir le meilleur réseau social du monde, s'il y a personne, c'est pas terrible. Et donc, le fait d'utiliser des réseaux sociaux pour ça, Facebook ou autre, ça pose beaucoup de problèmes, même d'ergonomie. Moi, j'ai été obligé de construire des scripts par-dessus Facebook pour récupérer mes propres données, enfin les propres données des gens. Ce qui n'est pas toujours facile, alors que ça pourrait l'être dans d'autres contextes. Mais oui, c'est un outil comme un autre, on va dire, faute de mieux, quoi.
Ok, et maintenant je vais poser la question à Tfu. Du coup, comment est-ce que vous présentez votre projet et comment est-ce que ça discute avec ce qu'on était en train de dire, je sais pas.
Alors oui, donc bonjour. Je suis Cyrine Namar, je suis cofondatrice de Atfu et en fait voilà, on a créé une application qui permet aux artistes de troquer leurs œuvres. Donc c'est une application gratuite qu'on a lancée il y a plus d'un an, en juillet 2022. Et en fait l'application permet aujourd'hui de rassembler environ 5 000 artistes qui swipent des œuvres d'art. Qui sont anonymes et qui peuvent faire des propositions de troc quand eux-mêmes ont déjà mis leur œuvre en troc. Donc, comment ça se passe? Quand on aime une œuvre et qu'on lui envoie une proposition, l'autre personne peut venir voir dans le catalogue de l'artiste et choisir une œuvre en retour. Quand il y a un match entre deux personnes, les noms des artistes sont révélés. Donc en fait, c'est pas un
Merci.
réseau, vraiment à proprement parler, un réseau social. C'est plutôt une plateforme qui permet à des artistes de se rencontrer par affinité d'œuvres. Voilà, pour l'idée de se collectionner. Enfin, l'idée finale, c'est que des œuvres circulent, des œuvres qui sont pas forcément des œuvres qu'on exposerait aujourd'hui en 2023, nos dernières productions, mais qui peuvent être des œuvres qui ont déjà été exposées, qui sont stockées, qui sont archivées d'une certaine manière. Qui permet donc de faire circuler ces œuvres. Donc on crée une sorte de communauté voilà, à travers cette plateforme. On peut voir ça comme un réseau, parce qu'il y a quand même aujourd'hui plus de 1 500 œuvres qui ont matché sur l'application. Donc il y a eu au moins 1 500 mises en relation d'artistes. Mais après, voilà, je ne sais pas, c'est un peu à vous aussi de me dire ce que. Enfin, bon, je ne sais pas, un réseau social, je trouve que ça a peut-être un peu fort, peut-être comme mot.
Ouais, non, non, l'essentiel c'est que vous vous présentiez comme vous l'entendez et puis après on discute des enjeux communs un petit peu. On va passer à Élise qui travaille plutôt avec de la VR. Donc là, la question ça devient comment est-ce que l'archive, on l'active dans avec des formats nouveaux et la réalité augmentée, XR, tout ça?
Oui, ben, du coup, moi j'ai fait un projet de recherche. Il y a 2-3 ans, en 2018, ouais. Enfin, il était sorti en 2018 au Musée des Arts Déco de Paris, donc pour le designer Roger Talon. Et donc en fait, la problématique du musée, c'était qu'ils avaient scanné, archivé tous les documents de Roger Talon et qu'ils voulaient, ils s'étaient dit, bon, bah, on s'est donné toute cette peine pour scanner tous ces documents et les archiver. Maintenant, on aimerait bien les partager au public. Et ils se sont dit, bah tiens, si on faisait ça avec de la VR. Et donc, il a dû enfin falloir trouver une solution pour présenter ça. Et ce qui est assez intéressant de la VR, c'est que ça replace la question de l'espace un peu au centre, parce que c'est un peu ça que ça permet, et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et donc, ça a été la question parce que c'est assez fascinant de visiter finalement les lieux d'archives. Il y a vraiment toute cette fascination de tous ces objets qui sont cachés, qui attendent d'être vus. On voit ce qui n'est pas vu aussi, et du coup, il y avait quelque chose d'intéressant à creuser là-dedans et de donner à représenter finalement ces espaces d'archives numériques aussi, où c'est un peu genre de boîte noire où on ne sait pas de quoi on parle finalement. Si on parle de, je sais pas, les archives d'archives numériques, on n'a pas d'imaginaire en fait finalement qui sont associés à ces espaces. Et donc ça a été l'idée d'imaginer ce que serait un espace d'archives numériques, et enfin de créer des imaginaires autour de ça. Et donc on a imaginé, enfin on s'est inspiré de lieux physiques comme une fabrique de journaux avec plein d'images qui circuleraient dans l'espace comme ça, et que ça aussi ça permette une navigation. Enfin, donc c'est toute la question aussi des navigations des archives, parce que je pense qu'avec la question des réseaux sociaux par exemple des archives, c'est que finalement les archives elles sont montrées à travers des algorithmes qui vont choisir eux ce qu'il faut montrer, et puis qui vont montrer ce qui est le plus vu, puis finalement comment on sait ce qui n'est pas vu et comment on va voir ce qui n'est pas vu. Et pour ça, la question de l'espace, ça permet de créer des cartes mentales. Enfin, justement, je ne sais pas si je peux réagir sur votre outil. Comment est-ce que vous gérez cette question de la visibilité des œuvres, de qu'est-ce qui est montré sur un feed et...
Alors, pour l'instant, les œuvres, elles sont montrées de manière aléatoire. On a décidé que... Donc, il y a plus de 4500 œuvres qui sont archivées, d'une certaine manière, et qui sont visibles. Et oui, elles sont montrées aléatoirement pour que tout le monde ait un peu la même chance d'être vu, en fait. Donc, il n'y a pas d'algorithme mis en place. De toute façon, c'est extrêmement cher de mettre des algorithmes comme ça. Donc, voilà. Mais pour l'instant, en fait, ce qui nous tient à cœur, c'est que les œuvres soient vues, que ces œuvres... puissent circuler et que nous, on puisse potentiellement garder en mémoire ces œuvres qui sont arrivées sur l'application depuis sa création. Et potentiellement, un jour, pourquoi pas en faire quelque chose, soit les mettre en ligne, soit faire un fond d'images comme ça. Il y a plein de choses à imaginer avec... parce qu'en fait, tous les jours, tous les mois, il y a environ 400 et 500 artistes qui s'inscrivent. Tout le monde ne met pas forcément une œuvre, parce que je pense que tu as aussi envie de regarder à quelle sauce tu vas être mangé et ce qui transite comme image sur l'application. Et voilà. Mais
du coup, l'idée de troc, c'est vraiment tu mets une œuvre et du coup, tu as un échange.
Oui, c'est ça. Tu mets plusieurs, une
c'est
ou
du
plusieurs
match, quoi.
Œuvres. Ouais. C'est un peu comme Tinder, tu
vois.
Sauf que c'est anonyme, quoi.
Sauf que c'est pour ça que Cyrine butait un peu sur le réseau social, c'est que nous, en fait, le point de contact, c'est l'œuvre, c'est pas l'humain. Mmh. Et en fait, c'est justement l'échange de deux œuvres qui va mener à des rencontres et donc, in fine, une sorte de réseau social, enfin de réseau en tout cas, des rencontres entre artistes qui ne se connaissaient pas, qui sont dans des zones géographiques possiblement éloignées ou pas, voilà.
Ok, bah c'est super. En tout cas, avec Official Database, les projets secrets, ADFU, et puis la pratique dont qu'Élise a pu évoquer, on a trois façons différentes d'adresser la manière dont des œuvres peuvent être archivées. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on a dans notre société une envie de simultanément archiver et faire de la remédiation. Donc finalement, on arrive à de l'archivage en live qui est rediffusé en live. Peut-être que Marion, tu pourrais présenter un peu ton travail, ta pensée, et puis réagir sur ça. Je ne sais pas, c'est un peu large, désolée.
Bonjour, merci Benjamin, Vincent. C'est vrai que c'est difficile de rebondir parce que bon, moi je viens de la critique du commissariat d'exposition et on va dire aussi de la recherche, l'enseignement. Et donc j'ai une approche un peu théorique par rapport à vos pratiques. Et lorsque Benjamin m'a invité, il y a une petite anecdote que je voudrais vous raconter, c'est que le jour même, une artiste me contactait pour que je lui écrive un texte. Il s'agit de l'artiste Anne Aurel, qui dès 2008 en fait, s'était intéressée aux réseaux sociaux comme médium et comme base d'archives, et qui a très vite créé des gifs, des petits clips, ce genre de pratiques, et qui postait tout sur la plateforme Vine, et qui du jour au lendemain s'est arrêtée, et elle m'expliquait que donc, du jour au lendemain, elle a perdu tout son travail, ses 100 000 abonnés, sa crypto, sa fame, etc. Et que se posait d'un coup la question de ses archives, de son travail, et d'un coup aussi avec des projections à long terme, qu'est-ce qui sera archivé dans un espèce de futur. Donc là actuellement il y a une exposition qui aborde ces questions et voilà, j'avais écrit tout un texte, mais ça me plaisait bien de commencer par le fait qu'il y ait une énorme fragilité de cette espèce d'hypermnésie. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, enfin, les questions de l'archive ont toujours été très présentes dans la recherche, mais il y a une dizaine d'années, il y avait énormément de colloques sur ces questions-là et on parlait beaucoup d'hypermnésie. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'un droit à l'oubli, d'une volonté de, que tout ne soit pas justement archivé, parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup cette nouvelle de Borges qui s'appelle « Funès ou la mémoire », qui explique en fait la nécessité aussi de l'oubli. Et c'est aussi à ce moment-là qu'est apparu petit à petit, donc un tout petit peu plus tard malgré tout, les stories. Et qu'est-ce que c'est qu'une société qui fonde ses archives sur quelque chose justement aussi d'éphémère? Et là, ça implique tout un tas d'autres questions, mais peut-être aussi, avant d'appuyer d'autres questions qui m'intéressaient après ces quelques anecdotes, je voudrais revenir sur peut-être ma pratique malgré tout de critique commissaire d'exposition. Puisque nous-mêmes finalement nous indexons, nous archivons et nous utilisons beaucoup Instagram notamment pour enregistrer, capter ce qu'on a vu et puis aussi comparer les points de vue que d'autres critiques utilisent. Et alors qu'à l'époque on était beaucoup sur le fil, désormais on n'est plus que sur les stories. Et pourquoi j'aborde cette question? Parce qu'il se trouve que dans l'histoire de l'art, vous connaissez certainement l'Atlas Mémosine de Abby Warburg, qui s'est énormément appuyé donc, sur toute une bibliothèque, mais également sur des photographies qu'il prenait. Et en fait, on sait bien que la photographie, que les instruments, les appareils optiques vont mouler le regard, vont, par le cadrage, donner un certain point de vue, créer une pensée, créer une nouvelle forme d'archive, de compréhension, d'intelligence même de l'image. Et donc se pose la question de qu'est-ce que ça fait, nous, qui utilisons ces fils sur des plateformes évidemment cotées en bourse qui sont à tout moment susceptibles d'être détruites ou en tout cas de jouer le jeu justement, on l'a dit, des algorithmes qui vont créer non plus un capital symbolique mais juste un capital tout court. Qu'est-ce que c'est que la confrontation de ces regards aussi avec mes collègues, d'une indexation qui passe par le nom, par... Et puis d'ailleurs l'indexation, les fameux hashtags, c'est un peu has-been maintenant, donc il y a aussi cette évolution qui évolue. Donc ça c'était aussi un point sur lequel je voulais aborder. J'en aborderai d'autres, mais peut-être je donne la parole. Et voilà. C'est un peu le bordel. Hein.
Non, moi ça me fait pas mal réagir. Enfin, surtout cette question des stories. Enfin, le nouveau projet que je suis en train de développer aujourd'hui s'appelle Insomnie. Et le point de départ c'était de se rendre compte que en fait, la question des archives, enfin, ici on l'aborde du point de vue de l'artiste, parce que je pense qu'on est dans une école d'art et on a tous une pratique. Enfin, je sais pas. Mais en fait c'est une question qui est présente pour tous et tout le monde. En fait, on a tous archivé nos vies sur nos téléphones. Et moi, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des traces de ma vie, en fait, ils étaient numériques. Je pouvais pas les toucher, et que en fait, il y avait que mes fringues, en fait, que je pouvais toucher. Enfin, c'est un peu vertigineux, en fait, de se rendre compte de ça et de cette question de du toucher, enfin, de la matière. Après, il y a beaucoup de monde qui écrit aussi là-dessus. Et puis, c'est vrai que la question de l'archive, elle est centrale, je pense, dans l'histoire aussi du numérique, enfin de la volonté d'archiver le monde. Je crois que c'est un des grands projets. Mais
un projet occidental aussi. Ouais. Enfin, on le dit souvent. Hein, on a le culte des ruines, on a le culte de ces archives, mais on parle beaucoup du choix d'archiver. Et qu'est-ce que c'est qu'une civilisation qui a fait le choix de ne pas justement avoir un impact sur la surface de la Terre, dans un contexte aussi écologique, la pollution numérique est très importante à prendre en compte. Et on sait qu'il y a, surtout en Asie, avec peut-être un héritage plus bouddhiste, beaucoup de civilisations qui ont choisi le bois plutôt que le marbre, qui ont choisi de l'éphémère plutôt que une vision où la civilisation reste sur un long terme, d'autant qu'on sait que les archives... Et là, j'imagine que vous en avez peut-être parlé, mais il faudrait peut-être revenir sur l'étymologie de ces termes. C'est Derrida aussi qui en parle dans Mal d'archives. Je reprends mes notes pour ne pas dire de bêtises, mais c'est à la fois arché, le commencement et le commandement. Et c'est aussi archaïon, le lieu. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les archives étaient domiciliaires et aussi régies, administrées hiérarchisées, classisées, interprétées par les fameux archontes. Qui sont les archontes aujourd'hui? Qui sont ces magistrats supérieurs qui, décident de ce qui reste? On sait évidemment que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Dès lors qu'on a des plateformes qui permettent aux anonymes et à un sens plus large d'archiver sa mémoire, eh bien évidemment, il y a un principe de démocratisation des rapports de force qui sont à interroger. Et encore une fois, si elle n'est plus domiciliaire, si elle circule sur les réseaux, si elle est prise dans ses flux, dans ses fluidités, elle est soumise aux algorithmes, elle est soumise encore une fois à ces plateformes dont on ne cessera de répéter qu'elles ont des biais, etc. Voilà, le choix, c'est pas pour rien aussi que lorsqu'il y a eu une critique des institutions, des musées, hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'un musée, dans quel contexte ça naît, on va pas refaire cette histoire, mais les musées aujourd'hui se posent beaucoup de questions, parce que qui a choisi qui, au nom de quoi les musées se sont instaurés, au nom d'une conception universaliste qui aujourd'hui ne tient plus et qui aujourd'hui est remise en question par tout un ensemble de questions décoloniales, féministes, etc. Encore une fois, je réduis très rapidement, mais j'imagine que vous voyez un peu de quoi je parle. Dans les années 60 aussi, il y a toutes ces pratiques éphémères de la performance où l'idée était justement de ne pas terminer sur un rapport à l'objet, un rapport marchand. Donc encore une fois, l'archive, elle doit s'interroger dans l'autre sens, c'est-à-dire... Oui, comme tu le disais, je trouvais ça très beau. Le vêtement, c'est la seule chose qu'on peut toucher. Mais est-ce que parfois aussi, ça ne vaut pas le coup de laisser passer les choses et d'avoir ce rapport plus humble, entre guillemets, même si le terme n'est pas forcément bien choisi.
Ouais. Moi, je trouve que quand tu parles des stories ou voilà, ce genre de nouvelles manières d'archiver, en fait, ça pose la question de qu'est-ce qu'on archive aujourd'hui. Oui. Moi, je suis artiste. Quand je regarde, on se disait, bon, bah, l'archive, aujourd'hui, je trouve que les stories ou ce genre de rapport comme ça à notre téléphone permet aussi d'archiver tout un processus artistique et on est moins sur un résultat, d'archiver un résultat, une œuvre terminée. Et je trouve que ça se mêle aussi avec le médium de la vidéo, il y a quelque chose qui est moins figé aussi, et de beaucoup plus instantané, et il y a quelque chose que je trouve très vivant en fait, dans notre manière de vouloir archiver aujourd'hui les gestes quotidiens ou les manières de travailler. J'ai l'impression que quand on regarde, je suis abonnée à, je sais pas, 1000 artistes, et tous les jours j'ai accès à leur travail au quotidien, ou leur manière de faire, etc. Et un jour, je sais pas si ça pourrait être... je crois que sur les applications, on est censé quand même pouvoir récupérer certaines données. Mais ça pose la question de comment on archive et qu'est-ce qu'on a décidé d'archiver aussi aujourd'hui.
Mais est-ce que justement tout ce processus de story, etc., tu considères ça comme de l'archive?
Ouais. Enfin, je le considère comme.
Bah, aujourd'hui, c'est de l'éphémère, c'est ce qui s'envole après, c'est ce qui s'arrête. À part si tu décides de l'enregistrer à la une.
Maintenant, tout est enregistré.
Oui, non, mais tout est enregistré. Enfin,
elles sont conservées.
Le processus, c'est la volonté de la personne, de l'utilisateur, dans le fait de faire une story plutôt qu'une publication. Je me questionne vachement là-dessus, sur l'éphémère, donc l'inverse de l'archive. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est un vrai sujet intéressant à soulever. Et donc, j'ai du mal à considérer justement le processus créatif qui est hyper intéressant, justement, qui est relayé par les stories, mais qui sont évanescentes.
Et donc, qui sont stockables quand même sur Instagram.
Oui, elles sont stockables quelque part, mais dans le fait de partager. On est sur l'archivage et le fait de le partager, puisqu'on est sur un réseau social. On n'est pas sur mon espace, mon disque dur ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, je la partage, mais pour une certaine durée. Ouais. Donc, est-ce qu'on considère ça comme de l'archive?
Pour moi, une archive, il y a une intentionnalité de s'inscrire dans le temps. Et en fait, quand on poste une story, c'est pour montrer, c'est pour être dans le moment. C'est comme... genre se montrer dehors, mais pour moi ça c'est pas de l'archive en fait. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu je sais pas si c'est une confusion, mais c'est vrai que tout se conserve, alors du coup on se dit bah c'est bon, on a une archive, mais en fait pour moi l'archive il y a un travail de curation, enfin je sais pas,
voilà,
moi ma grand-mère,
la volonté,
quand elle faisait des archives par exemple de famille, il y avait un travail de curation, de projection dans le temps, de se dire que ça c'est ce qui va rester de la vie qu'on mène, et que du coup il y a une intentionnalité dans la production de ce qu'on fait, alors que maintenant quand on regarde l'objectif, c'est pour se montrer maintenant, mais c'est pas dans un but d'archiver. Enfin, la manière de regarder l'objectif de l'appareil photo, par exemple, c'est un rapport complètement différent, qui pour moi, du coup, c'est pas de l'archive en fait.
Je suis complètement d'accord. Oui, mais le fait est que tout est mémorisé et nous, on y a accès. C'est-à-dire que ça s'archive, quoi. Aujourd'hui, tu as dans ton compte toutes tes stories, toutes tes 2 ans de dernières stories sont là. Elles sont archivées, elles ont leur espace, quoi.
Ouais, mais aujourd'hui, en tant qu'artiste, pour exister, il y a besoin de tout le temps se montrer. Donc c'est plutôt être artiste aujourd'hui, ça fait partie de faire ça. Mais par exemple, si tu voulais archiver, et puis, enfin pour moi en tout cas, je sais pas, mais si tu voulais avoir, que ça rentre dans une forme d'archive, il faudrait reprendre en fait cette matière-là et en faire quelque chose, mais juste de facto comme ça, genre. C'est conservé, mais pour moi, c'est pas la même chose. Ouais,
du coup, alors je reprends un petit peu pour faire aussi tourner un peu en... Et puis, un petit peu résumer. Moi, j'ai un truc à ajouter, c'est que... Voilà, on a une discussion qui est très Instagram, quand même. Hein. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé de rester dans ça. Mais dans Instagram, tout dépend de l'utilisation qu'on va faire du module story. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça parce qu'il y a une fonction dans Instagram qui s'appelle archive. Et donc... J'utilise les stories parce que ça archive. Et je ne mets pas des photos de moi-même en fait, dans mes stories, je mets des choses que je n'ai pas envie de stocker dans mon téléphone. Donc ça veut dire qu'il y a...
Tu as une confiance...
Non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une manière d'externaliser une partie des choses que je vois et des photos que je n'ai pas forcément envie de garder. Quoi. Donc c'est aussi dans les termes qui sont utilisés dans la plateforme, c'est intéressant. Mais pour revenir un petit peu, peut-être donner la parole un peu à Yann, une des choses qui, je pense, nous réunit là, c'est qu'on a aussi... chacune des stratégies pour se ressaisir de ces outils qui nous vident de notre essence un peu. Donc par exemple, moi j'aime bien les projets secrets parce que c'est vraiment du fight back, quoi. On va utiliser Facebook, on va faire un groupe comme un endroit de stockage de plein de choses qui permettra, comme disait Yann tout à l'heure, de mettre des gens en lien, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens et parce que c'est pratique pour ces gens-là que ça va leur permettre de collaborer. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on les réextrait ? Est-ce que peut-être, Yann, tu pourrais nous faire un petit point sur à la fois comment est-ce qu'on extrait des données de Facebook alors que Facebook ne le veut pas qu'on puisse le faire ? Et à la fois, comment est-ce que... Ça, c'est aussi une autre partie de cette table ronde, peut-être.
Facebook le permet. Hein.
Alors, l'autre partie, juste je glisse ce truc-là, l'autre partie, un truc que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est comment chacune fait, en fait, personnellement, pour archiver quoi ? Parce que là, on a des gens qui font du commissariat, qui font de la XR, qui font plein de choses et qui s'occupent d'autres gens. Donc, comment est-ce qu'on archive quoi, en fait ? Alors, peut-être, Yann, tu... Est-ce que tu as compris ma question ?
J'ai eu des bribes de... Je pense que j'ai compris. Tu peux la résumer juste près du micro ?
Oui, je refais la question en simple. En gros, deux parties. La première partie, c'est comment est-ce que toi, tu penses qu'on peut se ressaisir de Facebook ? Comment est-ce qu'on fait techniquement, hein, pour extraire de Facebook ce que Facebook ne veut pas qu'on en extrait ? Et deuxièmement, comment est-ce que tu fais, toi, pour sauvegarder quel type de données, en fait ? Qu'est-ce que tu archives et comment ? Parce qu'on a parlé de droit à l'oubli et d'humilité dans le fait de ne pas archiver. Peut-être que tu as une vision un peu contrastée de ça aussi, et après on fait recirculer pour voir qu'est-ce que tout le monde en dit.
Moi, mon but assumé, c'est de conserver les choses dans les deux projets, en tout cas, dont tu as parlé. Donc le droit à l'oubli, il a pas trop sa place, mais enfin, il a une place différente. Mais en tout cas, il y a une question un peu parallèle à ça, c'est que moi je suis assez attaché à... par exemple, j'ai pas tellement envie de conserver des archives qui dépendraient d'un site web pour être vues. Et le jour où, c'est comme l'exemple d'Anorel avec Vine, le jour où ça disparaît, d'un seul coup tout disparaît. Et en fait, je pense que j'aime bien tout simplement, par exemple, quand j'archive du texte, je conserve du texte, c'est tout simplement des points texte avec une liste de texte. Il n'y a pas besoin de logiciel particulier pour les ouvrir. C'est très facilement parçable, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis attaché parce que je m'en sers après dans les boulots que je fais avec. Et donc, j'ai besoin de cette mise en forme-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas facile. Enfin, il y a ce travail d'automatisation là, de script que j'ai fait sur Facebook, par exemple. J'ai dû le faire sur plein de sites parce que si je veux récupérer... par exemple, il y a des groupes Facebook. Je sais qu'on a, on a un groupe Facebook sur lequel les gens racontent leurs rêves depuis maintenant plus de 10 ans. Et il y a des milliers de personnes qui racontent leurs rêves tous les ans. Donc, il y a énormément de rêves. Je crois que j'avais réussi à récupérer l'intégralité des rêves en 2018. Ça faisait je ne sais plus combien de fois la recherche. Enfin, c'était une quantité pas possible. Et aujourd'hui, j'ai réessayé récemment, c'est devenu impossible de scroller pour aller au début de la page. Et je crois que la seule façon que j'ai trouvé de lire un rêve qui aurait été écrit en, mettons, 2012, c'est de se souvenir d'une phrase du rêve et de la taper et de retomber dessus. Et ça je trouve ça quand même assez aberrant, parce que, et vraiment, j'ai beaucoup cherché, y compris avec des API, etc. C'est très difficile. Et je trouve ça étrange qu'il y ait cette archive textuelle qui est conservée. Je pense pas spécialement que Facebook ne veuille plus qu'on y ait accès. C'est plus une question là de comment on y a accès et d'ergonomie. Et que j'ai été obligé de faire des scripts pas possibles pour pouvoir récupérer des choses qui pourtant sont là, mais qui sont juste dépendantes d'un site ou qui sont dépendantes d'une certaine mise en forme qui est pas très... qui n'arrange pas tout le monde. Et ça je trouve ça étonnant.
Ça semble quand même confirmer ce que disait Élise.
Ouais, sur l'indexation.
C'est-à-dire que Facebook, enfin Meta, a pas non plus intérêt particulier à archiver. C'est pas son boulot, et on aurait probablement tort. Ouais. Bah, je sais, mais bon. Ça...
Ouais, là.
Ah oui. On aurait probablement tort, effectivement, de croire que c'est ça qu'ils font et utiliser. Merci, j'ai vraiment l'impression d'utiliser ces plateformes pour archiver. Ce qu'on fait tous et toutes parce que c'est pratique, et ça nous donne l'intuition ou l'impression que ça va marcher, c'est-à-dire à long terme, mais le fait est qu'ils n'ont pas à s'engager là-dessus, d'ailleurs ils ne le font pas. C'est ce que tu viens de constater. Et amèrement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... Techniquement, ça ne va pas être monstrueux pour Facebook de permettre de lire les rêves de 2012. Ça paraît un peu surprenant. Mais,
oui.
Mais bon, après, on ne connaît pas en détail ce qui se passe. Mais ce n'est pas plus leur boulot, quoi, entre guillemets.
Puis surtout, ouais. C'est grave de centraliser aussi l'archive de tous ces milliards de personnes sur, encore une fois, Meta ou toutes ces entreprises... collecte les données. Enfin bon, ça on le dit tous les jours, mais il faut vraiment se le répéter.
Puis ouais, je pense que tu soulevais aussi la question de la navigation de ces archives, et je pense que c'est assez clé. En fait, quand tu as tellement de données, enfin, moi j'aime bien cette idée aussi que ça soit aléatoire, et ce choix-là, je le trouve bien. Mais je pense qu'il y a aussi des limites, et puis enfin, c'est un peu ce que j'ai découvert, enfin, exploré aussi en faisant des liens avec les palais de la mémoire, mais en fait, cette notion de spatialiser l'information... et de se donner des représentations spatiales, de pouvoir s'y projeter aussi physiquement, corporellement. J'ai l'impression qu'il y a urgence aussi de trouver des stratégies, puis que c'est un peu aussi à nous, artistes, de trouver des stratégies pour naviguer ces archives, ces informations, d'autres manières que des algorithmes, en fait. Enfin, des algorithmes tierces en plus.
L'archivage a vachement évolué, parce que tu évoquais tout à l'heure l'indexation. C'est vrai que quand on pense à l'archive, on pense quand même quelque chose d'assez structuré, et avec les nouveaux modes de communication, notamment avec les réseaux sociaux, on est justement dans cette un peu déperdition d'informations, enfin d'archives qui sont toutes entremêlées. Et nous, c'était un des constats qu'on faisait notamment par rapport aux artistes, c'est qu'il n'y a plus de sites d'artistes. Les artistes s'en remettent justement au réseau et à ce nouveau mode d'archivage, de présentation, de monstration du travail, quoi.
Oui, qui en plus sur Instagram, les fils qui sont valorisés, enfin ça on l'a vu notamment avec des discussions et des influenceuses qui travaillent sur la critique d'art, ou en tout cas la médiation de l'art, c'est que ça privilégie des contenus, bon, on le sait, lisses, un peu aseptisés, et beaucoup la peinture, au détriment d'un art plus conceptuel ou de la sculpture. Donc en fait, ça valorise aussi un goût particulier qui est encore une fois un peu à questionner. Qu'est-ce que c'est que ces images bankable qui sont de plus en plus vues, et encore une fois, entre le capital symbolique et le capital tout court, le pas est vite franchi.
Oui, et puis tu t'en remets à justement ces plateformes qui vont, elles, générer, enfin, tu vois, les mots-clés, l'intelligence artificielle qui va générer justement la façon dont tu vas retrouver, réaccéder à ces archives. Je sais pas. Là, en l'occurrence, avec les rêves, c'est un peu plus simple puisqu'en fait, on est sur un format texte initial. Mais pour, je sais pas, comment tu accèdes à une œuvre de Cyrine de 2018 sans scroller pendant des plombes, je sais pas, est-ce que c'est du recensement
par... les critiques, au passage, les commissaires n'aiment pas aller voir les sites des artistes ou les œuvres des artistes sur les Instagram. Donc faites des sites, faites des portfolios à l'ancienne. Et surtout qu'on est un peu fétichiste aussi, non pas du papier, mais les critiques d'art ont les archives de la critique d'art. Donc c'est les ACA, ça se situe à Rennes. C'est une espèce de bibliothèque où il y a les fonds d'écrit et les fonds d'archives de tous les critiques. Donc en fait, dans toutes les correspondances, tous les textes qu'on a pu écrire depuis le plus longtemps possible, tout ça est conservé dans un lieu qui est un peu en sursis, c'est pas le moment d'en parler. Enfin, si, il faut le signaler, mais voilà. Donc en fait, il y a de notre côté, nous, critiques et commissaires, ce fonds qui se constitue sur la base des échanges des écrits qu'on a pu avoir. Donc les fonds d'écrits, ce sont les textes, les fonds d'archives, ce sont aussi les correspondances, les petits flyers aujourd'hui, mais tous les petits off, on va dire, et qui font qu'aujourd'hui, il y a des critiques qui sont fans de voir le petit carnet de... je ne sais pas quelle critique, bon bref.
On a une question dans le public. Je pense qu'on va passer aux questions, parce que la table ronde n'est pas terminée, mais on se rapproche quand même du moment.
Merci. Pardon. Bonjour. Moi, je me pose une question depuis le début de la conversation que vous avez. Je trouve intéressant que vous preniez notamment les réseaux sociaux et vous avez fait un parallèle avec les sites internet d'artistes comme des espaces d'archives. Mais je pense que c'est débattable et que le débat il est hyper intéressant là tout de suite. Mais il y a quelque chose qui n'a pas trop été abordé, c'est le mot communication. Et pour moi, ces espaces de réseaux sociaux, à la base, notamment avec les stories, c'était surtout aussi comme un site web utilisé pas uniquement pour de l'archive, mais aussi pour communiquer sur ces événements, sur ces actualités. Et du coup, il y a une différence entre faire de la communication et faire de l'archive. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, pour vous, est intéressant dans le débat actuellement ou si ça ne rentre pas dans ce débat.
Je me permets de reprendre un peu la balle au bond, puis vous la donner aussi. C'est en fait, peut-être, moi, l'angle que j'aurais voulu donner à ça, c'est comment est-ce que, dans notre société, on peut se ressaisir de ces espaces qui sont ultra biaisés et qui sont des endroits de spéculation financière, et comment est-ce qu'on peut se ressaisir, parce que clairement, les gens qui sont étudiants ou jeunes artistes, ou même artistes avec quelques années de plus, en fait, la communication sur les réseaux, on n'y croit pas, parce qu'on sait qu'on est bloqué dans des bulles et que finalement, ça ira pas très loin. Moi, quand je mets une story ou quand je mets un post, j'ai pas du tout l'espoir que ça va être vu par des gens. J'y crois pas. À la base, pour moi, c'est juste un endroit où je mets des choses que je pourrais retrouver parce que quelqu'un s'en occupe pour moi. Alors, c'est un risque, mais peut-être ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est quel sacrifice je fais en participant à ce truc que je considère comme étant à mort immoral, quoi. Participer à un réseau comme Instagram, c'est immoral, mais qu'est-ce que je vais en retirer? Donc la question, c'est quel prix pour quel bénéfice? Et la question, le projet de Yann est pas mal pour ça, parce que lui, ce qu'il y gagne, c'est il y a une communauté, elle est là, et les gens, il n'y a pas des milliers de likes sur les dizaines de milliers de posts. C'est pas ça, c'est pas de la communication, c'est juste de l'interaction. Du coup, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce que le sacrifice fait? Je sais pas, moi, c'est un peu dans ce sens-là que j'irais.
Après, c'est vrai qu'on peut pas... C'est vrai que toi, Benjamin, par exemple, tu te dis « personne va voir ce que je fais », mais c'est vrai qu'on peut pas... Moi, par exemple, je réagis souvent. Enfin, je te dis « ah, t'as fait ci, ah, t'as fait ça, t'es là ». Et en fait, c'est vraiment ce truc de communiquer, de montrer aux autres quelque chose qui t'est propre. Enfin, donc, je pense pas qu'on puisse dissocier le côté... le côté communication de l'archive, et c'est vrai que c'est un peu biaisé de dire peut-être le mot archive dans l'intentionnalité, et là on est aussi hyper contraint par des formats, donc notre archive elle est formatée, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça en termes de temps, en termes de dimension, enfin tout simplement c'est pas des choix qu'on fait nous, Donc ça pose aussi ces questions-là, mais c'est vrai que le site internet d'un artiste, par exemple, enfin, c'est pas vraiment son archive, en fait, c'est sa manière de communiquer aux autres, c'est sa vitrine. Donc en fait, on a utilisé les réseaux pour faire des en tant que nouvelle vitrine. On revient petit à petit au portfolio parce qu'on se rend compte que c'est quand même la manière la plus libre de se transposer dans un espace. Enfin voilà, la page blanche. Enfin, voilà, il y a un peu ce truc. Mais en fait, quand on met sur un réseau ou qu'on montre aux autres via, comme tu dis, ce filtre Instagram ou Facebook, ou bah, en fait, on a beau se dire qu'on archive, on n'archive pas. Enfin, on conserve, comme tu disais, ou l'intentionnalité dont tu parles. C'est vrai que, bah, ouais, Instagram l'appelle archive, et moi, dans ma tête, j'archive aussi. Enfin, tu vois, il y a un truc de la story. Je sais que je peux la retrouver. Là, je peux me dire que il y a 3 jours, c'était ça. Il y a 3 ans, c'était ça. Et en même temps, c'était une manière de communiquer sur le moment. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une ça s'était dédoublé ou qu'il y avait un nouvel usage, en fait. Il y a un nouvel usage qui se dessine entre l'archive et la documentation. Nous, on avait imaginé avec ATFU un truc qu'on avait appelé le studio mobile. On avait imaginé que les artistes pourraient archiver leur travail et le documenter au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'on fait. Moi, ma manière d'archiver, c'est mon téléphone. J'ai tout sur mon téléphone, j'ai acheté 1 téra. Pour pouvoir mettre des vidéos, parce que je filme tout le temps, je filme des heures, et en fait je veux plus me prendre la tête de me dire où ça va, tout est sur le même endroit, et c'est entre l'ordi et le téléphone, tout est là. Bah, c'est quand même une nouvelle manière d'archiver aussi, enfin, ce que je faisais pas quand j'étais au Beaux-Arts, enfin, je faisais pas du tout comme ça, j'avais mon disque dur, tout dans des dossiers, et un jour j'ai tout perdu aussi, parce que ça a cramé, quoi. Mais...
Ouais, bah c'est une trace en fait, une story c'est une trace. Et puis après, enfin, du coup, il y a des traces tout le temps, il y a des traces, et après, ça devient une archive quand c'est classé, on dit, ah ouais, ça, on le conserve, c'est une archive. Enfin, j'ai l'impression que c'est la question de la trace en fait.
Mais moi, j'avais envie de dire merci Cérine aussi de nous témoigner ça, parce qu'effectivement, souvent, on se rend compte de l'archive à travers un traumatisme qu'on a plus ou moins tous vécu, c'est-à-dire la perte de disque dur. Et c'est vrai que ce moment-là, enfin, du numérique et de l'archive, il est assez prégnant pour tout le monde, en fait. On sait que là, ça craint. Enfin, on est tous un peu passés par là. Et du coup, on s'en remet forcément à des multinationales à qui on prête quasiment allégeance, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de gérer ça parce que, en quelque sorte, c'est dur. C'est dur, en fait. Ça prend de l'énergie, ça prend la tête, comme tu dis. Enfin, c'était très, très bien exprimé, parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça hier, en fait. C'est pour ça que je me permets, et je pense que c'est hyper important. On ne voulait pas faire, évidemment, uniquement un colloque sur ce sujet, la façon dont, d'y pallier, et n'empêche qu'il est assez central, parce que c'est une des raisons pour laquelle on va utiliser Meta ou Google... ou Apple. Hein.
Après, il y a des alternatives. Hein. Il n'y a pas non, que des clouds.
Attention, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Précisément, je pense que malheureusement,
on va vers la facilité.
C'est comme une défaite. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais de fait, j'avoue que c'est difficile. Qu'on est devant aussi une incompréhension presque essentielle, en fait, de toutes ces choses-là. On devrait apprendre à l'école, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus classique, en fait. Hein, que, bon, tu parlais de manipulation ou de perte du toucher, mais c'est aussi parce qu'on a très peu d'intuition vis-à-vis du numérique. C'est qu'en fait, c'est un monde qui nous est en grande partie inconnu et assez éloigné de l'intuition et du toucher, alors que, enfin, on en a parlé un petit peu hier de la matérialité, c'est aussi une question importante. Mais en fait, voilà, quand on peut trouver, par certains aspects, un rapport à la matérialité, mais je suis d'accord. J'en ai tendance à dire, c'est un problème aussi qui est lié à l'intuition. Enfin, pardon, c'est une parenthèse un petit peu longue. Mais
après, il y a plein de clouds différents. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des alternatives. Et je pense qu'il faut, c'est un peu aussi notre responsabilité d'aller chercher des initiatives. Enfin, hier, je ne sais plus le nom de l'intervenant.
Sébastien.
Oui, ouais, qui a fait des super interventions, et que je pense que c'est aussi notre travail en tant qu'artiste de se bouger un peu pour trouver des serveurs qui soient pas Google, pas machin. De faire l'effort. En tout cas, je pense qu'en tout cas, dans les écoles d'art, ça devrait être une question.
On n'a pas lâché.
J'allais juste aussi ajouter de multiplier les supports, puisque les supports vont aussi inconsciemment véhiculer tout un tas d'idéologies, de spécificités techniques, etc. Le papier, la dimension plus virtuelle du cloud. Donc peut-être essayer de multiplier les supports. Parce que ça donne un autre caractère aussi à ce qui, au contenu, quoi.
Peut-être, Marion, tu peux... j'ai envie de te relancer la balle pour commenter peut-être ce rapport injonctif, coercitif, dans lequel on se débat là, depuis le début. Parce qu'il y a une injonction à communiquer, une injonction à conserver. On était sur le droit à l'oubli. Puis il y a aussi le côté coercitif, où en fait, ça nous formate, etc. Mais toi, tu as beaucoup réfléchi à ça. Peut-être tu pourrais nous en... Enfin, je sais pas si ça t'inspire une envolée... rhétorique.
Alors, répondre non, poser d'autres questions, oui. Les questions peut-être qu'on peut essayer de se poser, c'est qu'est-ce que ça fait à nos mémoires passées et futures. Et d'ailleurs, à ce propos, j'imagine que vous avez peut-être vu passer cette expérimentation qu'a menée Someboy, vous connaissez peut-être sur les réseaux. Someboy qui est donc artiste et qui a également une chaîne qui s'appelle Histoire Crépue, enfin il en a plusieurs maintenant. Et donc lui, il travaille avec les IA, qui sont des bases d'archives hein, aussi, des bases de contenu d'images. Et il essaie de jouer et de prompter des textes qui essaient d'inventer une mémoire qui n'existe pas. Et notamment, il a tout un réel comme ça qu'il diffuse, donc qu'il communique sur Instagram, où il explique comment il a demandé à ses IA, donc je crois qu'il est avec Midjourney, des choses comme ça, et Dali, enfin bref, il est sur plusieurs générateurs d'images et de textes. De représenter une femme noire qui donne un coup de poing à un soldat blanc. Et en fait, il tape, il prompte, et les images n'apparaissent pas parce qu'elles ne font pas partie de la mémoire collective. Et au fur et à mesure, à force d'avoir des prompts à rallonge, il arrive à générer petit à petit ces images, donc à générer des images qui n'existent pas, donc d'une mémoire qui n'existe pas. Et peut-être c'est ça aussi les jeux de stratégie qu'on peut avoir, c'est comment on détourne les biais de ces datasets, de ces images qui ont été en plus indexées sous des formes très stéréotypées souvent. Mais je crois que Laurent Salard nous donnera aussi des éléments de réponse avec la question de la blockchain, parce que c'est un moyen de décentraliser aussi. Non, je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là.
Peut-être qu'on arrive un peu au terme, mais j'aimerais bien redonner un petit peu la parole à Yann, parce qu'on vient de mentionner les IA et que Yann a beaucoup travaillé avec pas mal de projets différents. Peut-être que du coup, tu aurais peut-être une réaction par rapport à ces questions de biais algorithmiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Enfin, je ne sais pas si ça te donne des conseils ou des idées.
C'est peut-être un peu vaste à aborder là, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une... non, là, je ne peux pas faire ça. Hop, comme ça. on peut se dire que c'est une façon de stocker de l'information qui est assez curieuse ou de condenser de l'information. Je ne sais pas trop comment aborder ça simplement là. Mais... Je sais que moi, j'ai entraîné beaucoup d'IA sur les bases de données que moi, j'ai personnellement. Je le faisais déjà il y a des années. Donc aujourd'hui, c'est drôle parce que ça pose souvent des questions éthiques qui se posaient moins à l'époque, je crois, parce que simplement, on avait nos systèmes qu'on entraînait sur nos trucs et il y avait moins la question de collecter plein de données à des gens qui n'ont pas forcément demandé. Mais c'est vrai que j'ai souvent considéré ça comme une espèce de... Enfin, moi, j'aimais bien donner la métaphore du terreau, que, dire que ce n'est pas vraiment une archive, mais c'est parce qu'on ne peut pas forcément retrouver une source à partir d'une IA qui aurait été entraînée dessus, mais c'est une sorte de prolongation de l'archive. Enfin, je ne sais pas comment... J'utilisais terreau parce que je trouvais que c'était une métaphore de... Enfin, vous voyez la métaphore, quoi. Il y a d'autres plantes qui poussent dessus.
Je trouve que c'est une note conclusive pas mal, cette histoire de terreau, parce que ça revient un petit peu. L'histoire de terreau, c'est une note conclusive qui est très bien, parce que ça revient un petit peu sur tout ce qu'on est en train de dire, sur qu'est-ce qu'on fait avec l'empilement des données, etc., le droit à l'oubli. Hier, on a eu une intervention de Monique Jeudy-Bahini qui nous a parlé de sociétés à tradition orale, et donc où l'archivage, ben, c'est pas du tout la même possibilité, quoi. Et donc aussi la dictature de, qu'on subit, hein, dans laquelle on navigue, dictature de tout archivé. Donc ouais, l'idée de terreau, peut-être que c'est la version optimiste de ce que les intelligences artificielles
nous... On a utilisé les termes de sédimentation et d'alluvion pour évoquer la question de l'archive, hein, son rapport organique à l'archive. Moi, j'aurais été très curieuse d'écouter la version des traditions orales, mais je sais que dans mes recherches, j'avais aussi trouvé comment, dans le rêve justement, dans, on va dire, des populations plutôt amérindiennes, amazonienne, pardon, comment on va revenir à contacter des ancêtres dans les rêves et faire véhiculer une mémoire comme ça de génération à travers les rêves. Et c'était justement une population qui était en voie de disparition pour différentes raisons et qui avait trouvé comme moyen, comme support de mémoire, et ben, ce passage du rêve. Et nous-mêmes, on parle tout le temps de la fin du monde, la fin d'un Occident. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société qui se pense au moment de sa fin du monde et qui rêve ses images, son futur, quoi.
Le caractère sédimentaire et tout, c'est... La sédimentation, c'est une très belle image. Ce que je préfère dans l'histoire du terreau, c'est que ça permet de faire pousser des choses. Tandis que, bon, faire pousser quelque chose dans du sédiment, c'est compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une remarque à...
Peut-être une question. On a encore.
On peut prendre une question.
Une ou deux questions. S'il n'y a pas de questions.
Alors une remarque.
Ben moi j'ai peut-être une remarque, un truc qu'on n'a pas dit mais qui est évident, c'est on n'arrête pas de dire tout le temps que tout est conservé, mais enfin moi qui m'intéresse à des tout petits médias anodins, je trouve qu'il y a. Je suis vraiment régulièrement étonné de à quel point les choses se perdent et ne sont pas... Alors peut-être qu'elles sont archivées sur un serveur quelque part auquel personne n'a accès, mais il y a tellement de choses qui disparaissent que je suis vraiment assez étonné de ça. Mais bon, je ne sais pas à quel point on s'en rend compte, quoi. Des choses qui disparaissent, des choses même récentes qui ont moins de 10 ans qui disparaissent d'Internet. Pour...
C'est moins optimiste.
En fait, ça pose la question du rapport au temps aussi qu'on peut avoir dans notre société. C'est comme un temps qui est vachement accéléré, justement, cette courte vie. Où les documents sont archivés, puis en fait, finalement, après, l'archive disparaît. C'est comme si tout était condensé, en fait, au niveau du temps. J'ai l'impression que ça parle aussi de ce rapport au temps qu'on peut avoir, même cette question qu'on pouvait avoir avant de montrer l'instant T, puis qui est directement archivé, en fait, mais ça va peut-être pas durer longtemps, mais c'est quand même là. Enfin, j'ai l'impression que ça parle de cette question du temps, en tout cas.
Oui, et de profusion aussi. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'on produit beaucoup plus d'images, beaucoup plus de textes. Enfin, on enregistre, en fait. Il y a ce côté, j'ai l'impression qu'on peut enregistrer tout et n'importe quoi et qu'on est un peu dans une boulimie.
Et puis qu'on l'a toujours sur soi aussi. Mmh. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de se balader tous les jours avec l'archive de toute notre vie, tous les jours sur soi? C'est un peu l'angoisse, quand même. Genre, je sais pas. C'est lourd quand même, non? Je sais pas. Du monde avant, après. Faut pas y penser.
À propos de temps qui s'accélère.
Oui, la prothèse, etc. C'est parfait parce que ça nous fait cette histoire de temps. Ça va nous permettre aussi d'enchaîner plus tard avec l'intervention de Nevin Lalou qui va nous parler de. En fait, on archive pour combien de temps, quoi? Parce que quand on sauvegarde et quand on archive et quand on documente. On n'a peut-être pas forcément une idée précise de pour combien de temps on le fait, quoi. Donc bon, ce sera un vecteur de continuité. Bah, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Célia est-elle dans la salle? Voilà, super. Donc, alors, on va accueillir Célia Grusson-Daniel. Voilà. Vas-y.